des aveugles et de l'éléphant. Tony, tu pourrais allumer, s'il te plaît. C'est un écrivain anglais qui avait écrit cette petite allégorie. Et il expliquait que c'était six aveugles qui n'avaient donc jamais vu d'éléphant, étant aveugles de naissance, et qui essayaient de comprendre ce qu'était un éléphant. Et il y avait le premier qui vient, qui s'approche et qui touche le flanc de l'éléphant. Il sent que c'est très dur, c'est grand. Et il en conclut, l'éléphant c'est comme un mur. Il y a l'autre aveugle qui s'approche et lui, il tend la main et tombe sur la corne, la défense de l'éléphant. Et puis il voit que ça s'affine, ça se termine en pointe, ça a l'air très dangereux. Et lui, il dit, ça y est, moi j'ai compris ce que c'est un éléphant. Un éléphant, c'est comme une lance. Puis il y en a un autre qui est là, et puis d'un seul coup, il y a l'éléphant qui le touche avec sa trompe. Il attrape cette trompe qui bouge et dit, ouh, ben ça y est, maintenant je sais ce que c'est qu'un éléphant. L'éléphant, c'est comme un serpent. Il y en a un autre qui s'approche aussi. On se demande comment ils sont pas écrasés par l'éléphant pendant tout ce temps, mais il s'approche, il touche la patte rugueuse de l'éléphant. Il touche, il monte, il dit, il n'y a pas de doute, l'éléphant, c'est comme un arbre. Il y en a un autre qui s'approche de l'oreille de l'éléphant, sans le savoir. L'éléphant bat son aile, de son oreille. Et il dit, ah, ça y est, l'éléphant, c'est un éventail. Puis il y en a un autre qui est derrière, il attrape la queue de l'éléphant. Et puis il dit, ah ben l'éléphant, c'est comme une corde. Et donc on voit qu'en fait, ces aveugles, quand ils basent leur connaissance sur leurs expériences personnelles, ils n'arrivent pas à connaître la vérité. Ils ont tous une idée partielle, et c'est vrai qu'on peut tout regrouper, que ce sont des attributs de l'éléphant, mais si nous voulons découvrir ce qu'est vraiment un éléphant, alors il va falloir aller lire un article peut-être dans l'encyclopédie écrit par des experts en éléphants. Il va falloir se tourner vers quelqu'un ou quelque chose qui fait autorité en la matière. Et dans le domaine spirituel, c'est bien évidemment la même chose. Beaucoup de personnes, même parmi les chrétiens, vont se forger des convictions sur leurs expériences personnelles ou sur ce qu'ils ont connu dans leur milieu ecclésial, dans leur église, dans leur dénomination. Ils vont se forger des convictions sur la base de traditions. On a toujours fait ça, donc ça doit être vrai. Et en fait, bien sûr, nous savons vers quoi il faut se tourner. Il faut se tourner vers la parole de Dieu qui est la vérité. Et donc, ce matin, nous voulons encore continuer à regarder un certain nombre d'éléments dans le domaine des dons spirituels, non pas sur la base de ce que nous avons connu nécessairement dans le passé, sur la base de nos expériences personnelles qui peuvent avoir même été très fortes, qui peuvent vraiment nous convaincre. Je crois que cette expérience n'est pas à rejeter, mais il faut la replacer dans son contexte en étudiant ce que la Bible a à nous dire. Nous avons donc commencé la semaine dernière à étudier le chapitre 14 de la première épître de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens. On l'a replacé un peu dans son contexte en rappelant que c'était une lettre pour corriger des abus qui se passaient dans l'église de Corinthe, qu'il a voulu nous parler des dons spirituels en les replaçant dans le cadre où ils doivent être, et celui de l'amour agapé. Nous avons dit que ces dons, s'ils ne servent pas à transmettre, à communiquer l'amour de Christ, Paul est bien clair, alors à ce moment-là, ils ne servent à rien. Nous avons parlé du don des langues, du don de prophétie, d'interprétation. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours emprunter les cassettes des messages si vous les avez ratés. Je rappellerai simplement que nous avons dit que les langues, c'est un langage de prière et de louange donné par le Saint-Esprit pour permettre à notre esprit de communiquer avec Dieu. Et c'est un langage que l'on n'a pas appris par l'éducation ou en entendant parler d'autres personnes. Il peut s'agir, comme dans le cas de la Pentecôte, de langages humains, c'est-à-dire des langages qui sont parlés quelque part, qui ont une syntaxe, etc., qui est connue, peut-être pas par nous, mais par d'autres. Et qu'on peut aussi penser qu'il y a un langage, ce qu'on appelle un langage angélique, qui est, d'après l'allusion de Paul dans 1 Corinthiens 13, au début, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Nous avons rappelé un point fondamental, c'est que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et ça, c'était le verset 2 du chapitre 14. Et il est bien important de savoir que, surtout lorsqu'on entend des interprétations, qu'une interprétation qui serait un message de Dieu à l'Église, c'est pas vraiment une interprétation. C'est peut-être une prophétie, mais ça fait pas office d'interprétation. Une interprétation doit toujours être en accord avec le fait qu'une langue, c'est un langage qui va vers Dieu, pour le louer, pour intercéder, pour le chanter, pour le remercier, pour le bénir. Et donc ça permet des fois de réaliser que ce que certains prennent pour des interprétations ne sont en fait que des prophéties et que la langue n'a pas été interprétée. La prophétie, on a rappelé que ça voulait dire, c'était plus comme nécessairement, ça pouvait l'être encore bien sûr, une prédiction qui allait se réaliser, mais ça pouvait être simplement une proclamation de la vérité. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, c'était souvent une prédiction du futur. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi cet aspect de prévision, de prédiction. Mais souvent, c'est simplement parler avec force la vérité qui est déjà révélée. Et dans ce sens, une prophétie, ça peut être un message ou un témoignage qui est inspiré par Dieu et qui va conduire à édifier, à bâtir, à exhorter, à encourager, ou même à consoler les hommes. À ce propos, il est intéressant que, vous vous souvenez, nous avons étudié le livre des Nombres, avant d'étudier la lettre de Paul, et on avait vu l'épisode du chapitre 11 du livre des Nombres. Encore un épisode, si vous vous souvenez, le livre des Nombres, c'était le livre du murmure d'Israël. Israël n'arrêtait pas de rouspéter, il se plaignait toujours de ce qu'il n'avait pas, au lieu de bénir Dieu pour tout ce qu'il leur donnait. Et dans le chapitre 11 au verset 24, c'est pas la peine de vous y reporter, mais Moïse avait été voir l'Éternel parce que les gens se plaignaient, ils voulaient un peu de viande, ils en avaient ras-le-bol de la manne. Ils pouvaient plus supporter. Il se rappelait les poireaux d'Égypte. Et en fait, Moïse avait fait une bonne chose. Il était allé vers Dieu pour lui dire « Qu'est-ce que je fais avec ce peuple qui n'arrête pas de murmurer ?» Et Dieu avait dit de rassembler 70 anciens. Et là, il est dit que dans la nuit, il avait parlé, il avait mis de l'esprit qui était sur Moïse, il l'avait mis sur les 70 anciens. Et que dès que l'esprit avait reposé sur eux, il s'était mis à parler, à prophétiser. Et il y avait deux personnes, un nommé Eldad et l'autre Médad, qui eux avaient raté la réunion. Ils étaient restés dans le camp, mais l'esprit vint aussi sur eux et ils se mirent aussi à prophétiser. Et il y avait le jeune Josué qui en était tout retourné, qui était venu voir Moïse et qui lui avait dit empêche-les de parler comme ça, de prophétiser. Et Moïse avait répondu: est-ce que tu es jaloux pour moi? Et il avait dit, son souhait c'était: puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et en fait, ce désir, ce souhait, cette prière de Moïse Dans le Nouveau Testament, elle est réalisée parce que le Saint-Esprit vient demeurer en chaque croyant. Maintenant, nous avons dit que le don de prophétie, c'est un don, donc ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement donné à tout le monde. Mais tous, au sens de l'encouragement, de l'exhortation, de la consolation, nous pouvons prendre la parole de Dieu et encourager ceux qui sont autour de nous. La semaine dernière, nous avions terminé un peu rapidement, je vais y revenir rapidement, les versets 21, 22, 23. Chapitre 14, il est écrit dans la loi, Paul disait, rappelez, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Et si donc l'Église entière se rassemble, que tous parlent en langue, et qu'ils surviennent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques croyants, quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Ce dernier verset nous rappelle que l'idée des dons, c'est encore pour manifester la présence de Dieu, l'amour de Dieu aux autres, et non pas pour se prévaloir d'orgueil ou jouer ou s'enorgueillir, encore une fois, des dons que Dieu a bien voulu nous accorder dans sa grâce. Les versets 22 et 23 semblent pouvoir être en contradiction. Et c'est un de ces passages de la Bible qui est souvent source de difficultés dans l'interprétation. Il y en a qui vont même jusqu'à penser que c'était une erreur de copie et qu'en fait Paul avait dit que dans le verset 22... Au lieu de dire les langues sont un signe non pour les croyants, il voulait dire non pour les non-croyants. Mais c'est difficile à supporter puisque Paul continue en disant la prophétie au contraire est un signe non pour les croyants, pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ce serait difficile de penser que les copistes aient interverti les deux. Alors, une explication qu'on avait suggérée, c'est peut-être que ça dépendait du type de langue. Au verset 22, lorsqu'il était question des langues comme un signe pour les non-croyants, on se souvient de Acte 2, où tous ces peuples qui étaient rassemblés à Jérusalem ont été touchés parce qu'ils entendaient les autres louer Dieu dans leur propre langue à eux. Ils ont été interpellés, donc ça s'agit comme un signe. Et dans ce cas, il s'agirait d'une langue parlée, d'une langue qui était parlée par un autre groupe que les apôtres ne connaissaient pas eux-mêmes, mais qui était la langue de ceux qui les entouraient. Alors, on peut dire, oui, dans ce cas-là, c'est un signe pour les non-croyants. Par contre, la langue qui serait une langue que personne ne comprend, une langue angélique, ce serait un signe pour les croyants. Une autre façon de voir la chose qui me paraît aussi peut-être la plus naturelle, c'est que lorsque la langue est parlée par en ordre tel que Paul va l'indiquer dans le reste, si c'est une langue à la fois, quelques personnes qui parlent, deux ou trois au maximum, alors ça peut être un signe pour les non-croyants qui vont dire « Tiens, ils parlent un langage, peut-être ils le connaissent, peut-être ils ne le connaissent pas. » Et surtout, c'est lorsque tous parlent en langue, que les auditeurs ou les non-croyants vont dire « Mais vous êtes tous fous. » Et là, je crois que Paul fait allusion à ce qu'on trouve encore de nos jours dans certaines églises, c'est le brouhaha des langues, où on ne comprend rien. Et je rappelais que, quelque part, je regrettais que ma sœur, il y a une trentaine d'années, était invitée dans une église où ça se pratiquait de la sorte, et en fait, son commentaire, c'était « C'est une secte, c'est fou ce qu'ils font, c'est du baratin, j'y comprends rien. » Et je disais que si elle avait été peut-être touchée par les langues parlées selon les critères que Paul va nous indiquer, peut-être serait-elle venue au Seigneur beaucoup, beaucoup plus tôt et que moi-même, je serais venu par son intermédiaire. Mais ça, on ne refait pas l'histoire. Dieu est souverain. Il a son bon plan. Nous devons nous y remettre. Donc ça, c'était pour revenir sur un passage qui est sur lequel je crois qu'on aura la solution une fois qu'on sera de l'autre côté de l'éternité. Vous pouvez noter tous ces passages qui posent problème et les noter. Et un jour, on aura une réponse définitive. Mais que ces passages ne vous inquiètent pas. Je crois qu'une chose très importante, c'était ce qui était dit dans le Deutéronome 29:29. Deutéronome 29:29, qui nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses sont révélées, sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est vrai qu'il y a des passages qui peuvent prêter à confusion ou à différentes interprétations, mais ne nous centrons pas sur ces passages où les choses ne sont pas révélées clairement. Appliquons-nous à mettre en pratique les choses sur lesquelles il n'y a aucun doute, et c'est pas ce qui nous manque dans la parole de Dieu. Et pour toutes ces choses qui peut-être sont sujettes à interprétations différentes, exerçons l'amour dont Paul nous a parlé au chapitre 13 pour sa gloire. Et là, nous allons voir encore une fois quel est le souci de Paul. Nous allons lire les versets 26 à 40. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Donc c'est chapitre 14, verset 26. Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Un autre assistant a-t-il une révélation? Que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Nous voyons là un certain nombre de principes que Paul nous rappelle, qu'il apprenait aux Corinthiens, qu'il rappelait aux Corinthiens. Et en fait, si on lit le premier et le dernier verset du passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il nous dit que tout se fasse pour l'édification. Ça, c'est le premier principe. Tout ce qui se passe dans l'Église doit conduire à édifier, c'est-à-dire à bâtir, à exhorter, à consoler, à encourager, à construire. Et puis, deuxième grand principe, c'est que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Bienséance, littéralement, ça pourrait traduire avec un beau schéma. Donc il est question de beauté, d'harmonie, d'honnêteté aussi. Il y a ce sens dans le mot en grec. Verset 33, il nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, premier principe, édification. Deuxième principe, quand l'Esprit Saint est à l'œuvre, il doit y avoir l'ordre et la bienséance. Ça ne doit pas être le chaos. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il va du désordre créer l'harmonie, il va du désordre, du chaos amener la beauté. La Genèse nous dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit va amener la création du monde à partir du chaos, du désordre complet. Et donc ça ne doit jamais être l'inverse. Il y a certains mouvements qui encouragent les émotions, qui prennent pour argent comptant certaines manifestations soi-disant venant de l'esprit, des hurlements d'animaux, des rires incontrôlables peuvent être selon eux des manifestations venant de l'Esprit Saint. S'il y a la pagaille, s'il y a le désordre, il faut en douter. Et encore une fois, revenir à la parole et non pas à nos propres expériences. Nos expériences, ce que nous ressentons, j'espère que vous en êtes conscient, ça dépend. Bien sûr, ça peut dépendre de la vérité, mais ça dépend d'un grand nombre de facteurs, de notre environnement, notre état mental. Ça peut même être aussi simple que ce que nous avons fait, ce que nous avons consommé. Le Saint-Esprit, lui, veut toujours nous conformer à Christ. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Le Saint-Esprit ne va jamais mettre en valeur le don spirituel lui-même. Le Saint-Esprit ne va jamais se mettre en valeur lui-même. Il va glorifier Christ. Donc ce sont des façons dont nous pouvons tester certaines de ces manifestations. D'abord, est-ce qu'elles ont un précédent biblique? Est-ce qu'on les voit décrites? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est apparu il y a quelque temps et maintenant c'est la nouvelle mode? Nous devons être toujours dans l'amour, nous devons être très prudents et ne pas accepter tout comme argent comptant. Le verset 26, certains le prennent comme normatif en disant « Lorsque vous assemblez, chacun doit avoir un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Au sens où chacun devrait avoir quelque chose à participer et que ça serait la norme. En fait, il est important de réaliser que dans le grec de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pardon, il n'y avait pas de point d'interrogation dans les manuscrits que nous avons. Et en fait, le point d'interrogation que se trouve maintenant, même dans la traduction à la colombe après frère, il pourrait être à la fin de interprétation. Est-ce que chacun a un cantique, une interprétation, une instruction, une révélation? Alors on peut, c'est sûr, on ne doit pas éteindre l'esprit et ne pas permettre à tous de participer. Mais dans le cadre d'une réunion publique de l'Assemblée, en fait, il y a toujours un principe de procédure qui va être développé. Et certains de nos frères, notamment dans les milieux pentecôtistes, vont dire « Mais pourquoi être aussi littéral dans votre interprétation du passage? Pourquoi dire qu'il doit y en avoir tout au plus deux ou trois ?» Ce qui est intéressant, et peut-être nous en sommes coupables, mais lorsqu'on a des convictions, on tente à être littéral, et lorsqu'on veut s'en défaire, on dit c'est simplement à l'époque, dans le cadre de l'Église, mais dans une Église plus grande, pourquoi limiter à deux ou trois? Je crois qu'il faut essayer, dans la mesure de notre capacité à l'être, dans notre honnêteté, d'être constant dans notre façon d'interpréter les choses, et si, par exemple, on est prêt à interpréter littéralement les passages du Nouveau Testament qui parlent, par exemple, de la discipline qui doit se passer dans l'Église, vous savez que lorsqu'un frère est tombé dans le péché, vous devez aller le reprendre. S'il n'accepte pas de se repentir, vous allez chercher un autre frère pour qu'il y ait deux témoins, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on le dénonce devant l'Église s'il ne veut pas se repentir. Il y a des pratiques, par exemple pour la Sainte Cène, que nous suivons à la lettre dans beaucoup de milieux. Nous essayons de voir. Et encore une fois, je crois qu'il est très important de revenir à la parole et de dire, bon, mais là, il est dit que ce soit fait dans l'ordre et la discipline. Nous avons vu la semaine dernière qu'en fait, Paul ne met jamais en doute le don des langues lui-même, mais qu'il l'encourage, il veut l'encourager surtout dans le cadre de la prière personnelle, de la communion personnelle avec le Seigneur. Il dit même que lui, il n'est pas contre les dons, le don des langues. Lui-même, il parle plus qu'aucun d'entre eux en langue. Mais il dit que dans l'assemblée, lorsque nous sommes réunis, il préfère dire 5 paroles de prophétie plutôt que 10 000 paroles inintelligibles. Donc il va privilégier la prophétie, nous l'avons vu la semaine dernière, la parole qui va être inspirée de Dieu pour exhorter, encourager, édifier l'assemblée, plutôt que les paroles inintelligibles. Et le seul cas, verset 27, si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, chacun à son tour, qu'il y en ait aussi un qui interprète. Donc, dans l'assemblée, le don des langues doit être suivi d'interprétation. Et nous avons vu qu'il fallait que, si on avait ce don des langues et qu'on voulait peut-être pouvoir le partager ce qu'il... comment il nous édifiait, il fallait prier aussi pour qu'on ait soi-même le don d'interprétation ou que quelqu'un d'autre dans l'assemblée ait ce don d'interprétation. Alors peut-être parmi nous, il y en a qui ont le don d'interprétation. Moi, je ne l'ai pas. Mais là aussi, je crois que on y reviendra à la fin. On peut étudier ces passages et en fait garder nos habitudes, nos traditions. Je crois que Dieu nous donne des dons spirituels encore pour qu'on les utilise pour bâtir son Église. Et il va insister pour les prophètes. Si quelqu'un veut parler et construire l'Église en amenant une parole, là aussi, verset 29, pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, c'est-à-dire évaluent. Donc, il va toujours dans l'idée qu'il n'y ait pas un brouhaha, que ça se fasse dans l'ordre, qu'on puisse entendre la parole, qu'il n'y ait pas un esprit de compétition, qui souvent peut résulter dans un esprit de contradiction. Les gens vont parler, ça va, les messages vont, s'ils ne sont pas vraiment de Dieu, ils risquent même d'être en contradiction les uns avec les autres. Le danger, c'est qu'on rejette complètement ce don, que les gens, quand ils entendent parler en prophétie, disent « Oh là là, ça y est, qu'est-ce que c'est que ça encore ?» Et encore une fois, c'est un don qui est très important, que je crois Linda, jeudi soir, a exercé en fait ce don en nous exhortant à la prière, à croire à la prière de façon plus réelle dans nos vies et dans l'Église. Elle a partagé qu'elle avait vraiment été travaillée par Dieu, qu'il lui avait montré vraiment la nécessité de prier sérieusement, avec consistance. Elle l'avait fait, elle avait obéi, que ça l'avait même fatiguée. Mais que... il fallait dans l'assemblée que nous ayons plus vraiment le sentiment que Dieu répondait aux prières, que Dieu voulait que nous soyons dans la prière. Et je vous invite aussi à vraiment vous mettre devant Dieu et dire est-ce que ma vie de prière sont simplement des formalités, ou est-ce que je crois que Dieu va répondre, va agir si nous nous mettons tous ensemble devant lui. Et je me pardonne de la citer, mais c'est pour dire que c'est pas quelque chose d'abstrait qui est, à force de faire grand cas des dons, d'en faire toute une histoire, on ne les reçoit plus, on ne réalise pas qu'ils sont, ça peut être quelque chose de naturel, ça peut être dans une conversation avec un ami, avec une personne dans la souffrance. Peut-être vous allez avoir une parole qui va encourager cette personne. Lorsque Zoé m'a appelé et qu'elle était en pleurs au téléphone en me disant qu'elle devait aller rejoindre son papa, je priais pour avoir quelque chose de vraiment d'encourageant dans ce cas-là à lui dire. Et je ne sais pas si ce que j'ai dit a pu être un réconfort, mais qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un nous dit « je suis dans la détresse, je suis dans la douleur » On peut dire « bon, on va prier pour toi, c'est bien de prier pour une personne, mais est-ce que je j'aimerais pas avoir à ce moment-là quelque chose qui puisse encourager, édifier, bâtir ?» Et là aussi, si vous avez ces situations, priez, aspirez à ces dons. Et une prophétie aussi qui peut avoir un aspect prédictif, peut-être qu'à un moment vous sentez que vous aimeriez partager, ayez le courage, ayez l'obéissance de prendre le risque de partager cette chose. Je viens de préparer une traduction de l'histoire de Calvary Chapel et qu'on va essayer de mettre disponible sur Internet. Quand Calvary Chapel était encore une toute petite église, quelqu'un avait fait la prophétie que l'église allait déménager et se retrouver sur une colline qui dominait la baie de l'endroit où ils habitaient. Et l'église avait dû déménager dans une rue qui s'appelait la rue de la baie, qui n'était pas à l'endroit auquel on pensait au départ. Et Chuck avait dit « Oh, mais ça, c'est formidable. » On n'entend pas 10 sur 10, on peut faire une petite confusion. Mais ce qui est important, c'est de voir que Dieu est à l'œuvre. Et en fait, les personnes qui avaient reçu cette prophétie ont dit « Non, 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 c'est pas ça. » Et il raconte que, quelques temps plus tard, quelqu'un lui a proposé, parce qu'il n'arrivait pas à rassembler les fonds pour construire le local, que leur église peut-être pouvait leur prêter, ils préparaient un déménagement, peut-être que cette église pourrait leur laisser utiliser leur église. Et là, quand Chuck a demandé où se trouvait l'église, elle a dit ben c'est sur la colline qui surplombe la baie. Et quand on voit justement dans l'obéissance de partager ces choses, on sait que c'est Dieu qui est à l'œuvre. On sait qu'on ne fait pas ça dans nos propres efforts. Donc, encore une fois, Paul nous dit ne méprisez pas ces dons. Le don des langues, c'est important pour votre communion personnelle avec le Seigneur. S'il y a interprétation aussi dans l'Église. Mais les prophètes aussi, c'est quelque chose de formidable. Là encore, l'ordre. Si une autre personne assise à une révélation, que le premier se taise, qu'il n'y ait pas la confusion, puis aussi qu'il y ait l'humilité. Sachant que personne n'a le monopole d'être le seul canal par lequel Dieu peut s'adresser à l'Église. Là, dans le cadre de... Vous dites, bon, Pierre, arrête de parler. C'est vrai que c'est un enseignement, c'est un ministère d'enseignement qui est une chose différente, mais on a un temps de prière que je prie s'améliore pour que chacun se sente libre et ne soit pas gêné de dire une petite prière pour remercier, pour intercéder, pour... Alors que ce soit pas l'extrême, c'est qu'il faille dans certains milieux, c'est preuve d'une vitalité aussi, quelque part, qui nous manque, c'est que il faut se préparer à sauter pour avoir la parole. Et des fois, on dit, bon, laisse-les parler. Non, il faut qu'il y ait cette liberté de partager. Si, pendant le temps de prière, vous avez quelque chose qui vous est à cœur, que vous pensez vient du Seigneur, très important, il est dit que les autres jugent. On peut parler, on a le droit à l'erreur. C'est important aussi. Je disais qu'on en fait toute une affaire. Il ne s'agit pas de commencer « Oracle de l'Éternel, ainsi dit le Tout-Puissant ». Et j'ai connu des personnes qui faisaient ça. Et c'est vrai que quand on entend une première fois, on dit « Ah tiens !» Et puis on voit que la personne, c'est une façon pour la personne de se mettre en valeur, une façon d'attirer l'attention sur soi. Le danger, bien sûr, c'est qu'on puisse être contrôlé par nos émotions. On peut s'imaginer que Dieu veut nous faire dire quelque chose, mais là, il dit que les autres évaluent Parce qu'il y a toujours ce danger de fausses prophéties. Ça peut être vraiment méchant, ça peut être des dangers de faux prophètes, des personnes qui vont infiltrer l'Église avec des doctrines qui n'ont rien de vrai. Mais ça peut être simplement quelqu'un qui pense, et bien en fait c'est pas vraiment. Mais il faut prendre ce risque de se tromper. Évaluer, comment pouvons-nous évaluer? Dans l'Ancien Testament, on disait que si les prophéties ne se réalisaient pas, lorsqu'elles avaient cet aspect prédictif, c'était la peine de mort. Alors bien sûr, ça faisait réfléchir les gens. Mais rassurez-vous, si vous annoncez quelque chose, si vous avez, tiens, l'Église va déménager pour se retrouver à l'Ariane, ou, alors là, faut encore une fois que ce soit vraiment pas vos sentiments propres, vous voulez que l'Église aille à l'Ariane. Mais ayez cette liberté de partager du moment que vous savez dans votre cœur que ce que vous allez dire n'est pas en contradiction avec la parole révélée de ce que vous connaissez de la parole de Dieu. Si vous dites quelque chose, c'est à nous de voir si c'est en accord avec la Bible. Peut-être vous le dire après, je ne pense pas que ce que tu as partagé soit parce que, mais toujours dans l'amour. Et là, il disait, vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté, parlant des deux ou trois prophètes. L'instruction fait aussi partie de ce que la prophétie. Et ce sentiment d'avoir à obéir à ce que Dieu nous dit de faire, ça doit être très important. J'entendais un message récemment où la personne disait que souvent dans l'évangélisation, il s'était aperçu qu'il y avait une timidité qui le bloquait, que des fois il avait envie de parler de Dieu, de dire quelque chose à une personne, mais il disait, oh, ils vont me prendre pour un fou. Et il disait qu'il avait commencé à dire simplement, si ça venait du Seigneur, s'il sentait que le Seigneur lui disait, parle à cette personne de moi. Il allait vers la personne en disant, toujours un peu mal à l'aise, mais par obéissance, il disait, eh bien, je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Je suis chrétien et je veux que vous sachiez que Dieu a un plan pour votre vie. Et il dit, en général, les gens ne se mettent pas en colère, lui donnent pas un coup de poing. Mais ils lui disent, ah, ça c'est intéressant, est-ce que vous pourriez prier? J'ai ma mère qui est gravement malade. C'est une façon de commencer. Et c'est surtout si c'est le Seigneur qui vous guide. Si vous répondez à cette petite impulsion, ce petit coup de coude du Saint-Esprit qui dit, mais parle à cette personne, à cette caissière, donne-lui un traité ou... Ça n'a pas besoin d'être un sermon, quelque chose de bizarre, mais juste un petit mot d'encouragement qui va peut-être faire sourire la personne et dire encore un illuminé. Mais si c'est le Seigneur qui est à l'œuvre, ça peut être le début d'un cheminement vers lui. Toujours se rappeler que le Saint-Esprit veut glorifier Dieu. Et il veut que nos vies glorifient Jésus-Christ. Il y a donc ce principe d'ordre. Et puis, verset 32, justement dans le sens de cet ordre, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous exerçons un don de l'esprit, nous n'allons pas perdre le contrôle de nous-mêmes, qui est un des fruits de l'esprit, pardon. Dans Galates 5. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il était en transe, ou qu'il avait une extase, et qu'il ne pouvait pas s'empêcher de parler, qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'interrompre, par exemple, le sermon parce que le Saint-Esprit l'y avait poussé, vous pouvez être sûr que ce n'est pas la vérité. Le fruit de l'esprit, c'est le contrôle de soi, et notamment dans l'exercice des langues, il ne nous force jamais à perdre le contrôle de nous. Il est vrai qu'il y a beaucoup de religions, de cultes, de sectes plutôt, où il y a des trans mystiques, il y a des trans chamaniques, des personnes qui perdent complètement la raison ou leur sens et qui vont faire des choses bizarres. Ça ne doit pas être le cas des dons de l'esprit. Parce qu'encore une fois, Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Il nous rappelle ensuite, un verset 34, un autre principe, un principe de soumission et de silence. Alors ça, c'est un passage aussi qui a fait dire à beaucoup qu'en fait, Paul était un sale macho, qu'il disait que les femmes devaient la fermer dans l'église. Et c'est vrai que lorsqu'on lit, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors, il est important de savoir que à l'époque, et même dans certains milieux, je sais que quand nous étions étudiants à l'Institut biblique de Three Hills au Canada, pendant les temps de chapelle, ce qu'on appelait il y avait d'un côté les hommes et d'un autre côté les femmes. Il est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes et que ça pouvait être une distraction, les discussions entre les uns et les autres. Mais à l'époque de Paul, on croit savoir, d'après les documents que l'on a de cette époque, que les femmes étaient assises d'un côté et les hommes étaient assis d'un autre côté. Et on pense que ce que Paul fait allusion, c'est les femmes qui interpellaient leur mari de l'autre côté de... Pierre, qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de ça ? Enfin, il y avait un désordre qui était en place. On sait que Paul n'interdit pas aux femmes vraiment de prier, même de prophétiser. Pourquoi ? Parce que dans 1 Corinthiens 11, 5, juste un peu avant, où il parlait que toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Donc, on ne peut pas accuser Paul d'être anti-féministe, d'être anti-femme, mais il voulait indiquer que tout devait continuer à se faire dans l'ordre. Et si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison. On peut penser que si les femmes n'étaient pas mariées, elles pouvaient voir un ancien ou demander à un parent. Mais l'idée, c'était de pas avoir le désordre, encore une fois, dans l'église. Alors c'est vrai que, traditionnellement, même dans les assemblées évangéliques, à part les moments peut-être dans certains milieux pentecôtistes où il y a le brouhaha des langues, il y a toujours une liturgie et un certain respect, mais même dans nos réunions informelles, sachons avoir cette liberté de prier plus facilement, plus librement, de partager, peut-être si nous avons le don des langues, de partager une parole en langue que quelqu'un va interpréter, que nous pouvons prophétiser, nous pouvons dire des choses qui vont édifier, qui vont encore une fois nous faire dire Dieu est vraiment parmi nous. Principe de dignité, verset 36, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu, ou une autre traduction pourrait être qu'on l'ignore. Donc Paul est très, très ferme là, et il s'adresse à ceux qui disaient « Oh Paul, moi je suis inspiré, j'ai pas besoin de lui ». Il dit « Réalisez bien que ça c'est pas simplement mes idées personnelles, ce sont des commandements de Dieu. Tout ce passage est à prendre à la lettre. C'est pas quelque chose, c'est pas un conseil, évitez de faire ça. Non, c'est vraiment si vous voulez être dans la vérité, alors qu'il y ait la dignité, qu'il y ait l'ordre, parce qu'il y aura la bienséance, il y aura la beauté. Et verset 39, je crois que c'est un commandement qui nous donne. Aspirez à prophétiser, soyez zélés, ayez vraiment le désir d'avoir ce don d'encourager l'Église, d'encourager l'Assemblée par une parole qui sera venue de Dieu, que Dieu aura mis dans votre cœur. Ça peut être un verset que vous connaissez, que le Seigneur va vous mettre à cœur. Eh bien, partagez-le. Si pendant les temps de prière, j'aimerais qu'il y ait plus de liberté dans les temps de prière que nous avons, toujours dans l'ordre. Si le Seigneur vous met même un passage de l'Écriture à lire, alors prenez pas le psaume 119 en entier, mais deux ou trois versets, sentez-vous libre de juste dire ça dans le temps de prière. Partagez un verset qui va peut-être être exactement ce que Dieu veut rappeler à une personne. Encore une fois, nous sommes le corps de Christ, nous ne sommes pas indépendants, nous sommes interdépendants. Et lorsque le corps fonctionne dans l'harmonie, Dieu peut le faire grandir, Dieu peut le nourrir. Aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Alors c'est vrai que dans certains milieux, on pense que les langues c'est quelque chose qui vient du diable. Et donc on va surtout ne pas, on va dire ne parlez pas en langue. J'avais reproduit dans la confession de foi des instructions qui disaient qu'en fait on n'était pas amené à parler en langue dans le culte. Et j'ai expliqué à ceux qui m'avaient fait la remarque, en fait j'ai dit c'est vrai que c'est une traduction d'un texte qui s'adresse à des églises où il y a 3000 personnes ou plus. Et donc pour éviter le brouhaha ou le fait que quelqu'un peut parler mais personne ne l'entend, à moins qu'on lui amène un micro, que ça fasse tout un désordre. La pratique, c'est de ne pas l'encourager dans l'assemblée au complet. Ici, nous sommes suffisamment, nous sommes pas nombreux au point où ça cause un problème. Donc, ne pensez pas que je veuille interdire le parler en langue, mais toujours dans le contexte où nous le voyons, que ça se fasse un à la fois, s'il y a interprétation. Alors peut-être vous pouvez le faire une fois, et puis vous verrez que personne n'interprète, si vous n'avez pas le don d'interprétation, priez pour l'avoir, recommencez peut-être plus tard, mais parce qu'à cause des excès, souvent la tendance c'est de dire, bon ben tout ça, j'y comprends pas trop grand-chose, c'était simplement les dons pour l'époque de Paul, maintenant qu'on a la Bible au complet, les dons sont plus pour, les langues sont plus pour nous. Là encore, je vous invite à écouter les derniers messages. Nous avons vu que c'est totalement faux. Aspirons à prophétiser, n'empêchons pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et cette exhortation de Paul, ce message doit peut-être nous faire revoir nous dire que lorsque nous avons des longs temps de silence, c'est bien aussi le silence. Il ne faut pas avoir peur du silence parce que peut-être certains peuvent prier silencieusement. Le Seigneur peut nous parler aussi dans les temps de silence. Mais que s'il avait à dire aux gens ne parlez pas tous à la fois, peut-être il veut nous dire aussi n'hésitez pas à parler aussi. Il y a un juste milieu, et encore une fois, on le trouve comment ? En cherchant l'éléphant, non pas en ayant notre propre expérience, en disant « j'ai jamais entendu de langue, j'ai jamais entendu de prophétie, quelqu'un qui parle en disant que c'est quelque chose qui vient de Dieu ». Non, venons à la parole, encore une fois, revenons à la parole, et toujours dans cette notion d'amour agapé. On voit donc que Dieu veut l'ordre. Il veut la beauté dans l'Église, mais je crois qu'une application, c'est pour chacun de nous, c'est que c'est aussi ce que Dieu veut dans ma vie. Dans ma vie spirituelle, il veut qu'il y ait de l'ordre et de la beauté. Et ça doit m'amener à me questionner, est-ce que dans ma vie de prière, dans ma lecture personnelle de la Bible, est-ce qu'il y a un ordre ? Est-ce que c'est quelque chose que je fais de façon consistante? Est-ce que j'ai un plan pour lire la Bible, ou est-ce que je prends la Bible quand j'ai le temps, je prends le psaume 23 parce que j'aime bien, je le relis, ou est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a un ordre, est-ce qu'il y a une beauté? Est-ce que dans mes prières, est-ce que c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite, la personne qui est mourante ou la grand-mère de la grand-mère qui est malade, Ou est-ce que je laisse l'esprit me guider encore une fois? Dieu veut voir dans son Église et dans chacun des membres qui constituent le corps l'ordre et la beauté. Et c'est aussi quelque chose pour lequel nous pouvons prier pour l'Assemblée, pour l'ensemble des églises. Est-ce que lorsque nous allons avoir ce rassemblement, un culte en commun, donc le 14 janvier à la maison du séminaire, prions pour que tout soit fait dans l'ordre et dans la beauté, dans la bienséance. Le Saint-Esprit ne nous invite jamais à être bizarres, à faire des choses qui vont choquer pour le plaisir de choquer les gens. Rappelez-vous Paul qui était prêt à renoncer à ses libertés pour édifier l'autre. Nous allons commencer. Nous avons terminé pour l'instant donc avec les dons spirituels. Encore une fois, je vous rappelle que Paul avait commencé en nous disant, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Si vous avez raté certains des messages, encore une fois, n'hésitez pas à les emprunter. Une fois de plus, ces dons, ça doit être comme des récipients qui servent à transporter l'amour de Dieu vers les autres. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité et nous te remercions de ce que nous pouvons nous tourner vers elle pour distinguer ce qui est tradition, ce qui est interprétation large ou déformée et de ce qui est vraiment ce que tu souhaites pour nous, Seigneur. Et merci de nous rappeler clairement que ce sont ces prescriptions, ces instructions ne sont pas des conseils, mais des commandements, Seigneur, et que si nous recherchons ton approbation, si nous voulons être bénis comme tu veux que nous soyons bénis, Seigneur, alors nous devons obéir à ces choses. Nous devons aspirer à ces dons. Merci, Seigneur, de nous faire grandir personnellement et en tant qu'assemblée, Seigneur, dans ce domaine, de façon à ce que tu sois glorifié parmi nous, Seigneur. Merci de ta patience avec les excès dans un sens, dans un autre. Seigneur, sois trouvé juste et sois glorifié encore une fois. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous guide cette semaine. Si vous avez signé pour prendre part aux marmites de l'armée du salut, n'oubliez pas de consulter vos calendriers. Et j'espère pour ceux qui ne seront pas là la semaine prochaine, il y en aura quelques-uns qui vont encore s'éloigner de nous. Je vous souhaite un très joyeux Noël et vraiment la joie de Noël. Continuez à garder Zoé dans vos prières, c'est une situation très difficile. Et encore, sachez que vos prières ont de l'effet. Amen. Amen.